France Inter.
As set out in our complaint, Apple has maintained its power, not because of its superiority, because of its unlawful exclusionary behavior. Monopolies like Apple's threaten the free and fair markets upon which our economy is based.
Apple a maintenu sa puissance, non pas grâce à sa supériorité, mais grâce à son comportement, qui est hors la loi, qui exclut la concurrence. Les monopoles comme Apple menacent le marché libre et équitable au fondement de notre économie. C'est le ministre de la Justice américain qui parle, Merrick Garland. Il attaque le cœur de la pomme, son écosystème fermé, un jardin clos, disent les anglo-saxons, et les utilisateurs d'Apple adorent justement la fluidité des déplacements dans ce jardin. Mais quel enfer lorsqu'il s'agit d'en sortir. Échanger avec un smartphone d'une autre marque, et voici que les messages sont moins sécurisés, les vidéos plus floues. Voilà, c'est tout cela que l'Amérique reproche à son géant de la tech. Et de l'autre côté de l'Atlantique, c'est aussi cela qui devrait pousser Bruxelles à ouvrir dans quelques jours une procédure d'infraction aux règles de concurrence. Les premières victimes, les consommateurs et puis les développeurs extérieurs. Quand tout est fait pour qu'on achète ses chansons sur Apple Music, ses films sur Apple TV, que l'on paie par Apple Pay avec son Apple Watch, il y a peu de place pour l'innovation. Alors soyons francs, hein, l'iPhone existe depuis 2007, l'iPad depuis 2010. Ce qui est intéressant, ça n'est pas vraiment la mise à jour d'un péché d'exclusion qu'on connaît depuis longtemps. Ce qui va être intéressant, c'est ce qui peut arriver maintenant à Apple. Quand on sait que vendre des services pour la marque à la pomme, c'est un taux de marge de plus de 70%, quand on sait aussi que les ventes d'iPhone ont ralenti et qu'elles stagnent, alors on comprend que ce qui se passe aujourd'hui en Amérique et en Europe ne va sans doute pas faire tomber la pomme, mais peut certainement secouer quelques branches.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine d'économie. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Avec Céline Hila, la réalisatrice, Valentin Pérez, le chargé de programme, c'est Pauline Laverdure qui signe le mixage et Jérôme Ragoneau qui nous accompagne ce matin à la technique. L'invitée de ce samedi 23 mars, c'est la ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire, Agnès Pannier-Runacher. Les remèdes à la colère des agriculteurs, le traité de libre-échange avec le Canada rejeté par les sénateurs, la nouvelle PAC conspuée par les ONG environnementales, entretien avec la ministre vers 9h40. Et puis de quoi parle-t-on exactement quand on dit vouloir la souveraineté alimentaire? Vous entendrez le reportage de Mathilde Dehimy. Au menu également, vos questions et les réponses de Madame Vieux-Boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce samedi, vous répondez à Anne-Lise. Elle vous écrit pour son fils Hugo au sujet de son compte personnel de formation.
Oui, Hugo veut utiliser son CPF pour devenir chariste, mais devra-t-il payer un reste à charge de 100 euros?
La réponse de Sandrine Foulon, ça sera juste avant 10h. Et on commence avec le débat de la semaine. Le déficit public de la France serait bien plus haut que prévu, à 5,6% du PIB en 2023. Voici donc la raison profonde des économies annoncées ces dernières semaines, le dérapage des finances publiques. Est-ce grave? À qui la faute? Faut-il et peut-on redresser la barre? Des questions pour Anne-Sophie Le Chevalier de Libération. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra.
Et Patrick Artus qui a un chat dans la gorge. Bonjour Patrick.
Bonjour Alexandra.
Économiste de la banque Natixis. Allez, la trajectoire des comptes publics qui déraille, est-ce qu'on l'avait vu venir et jusqu'où s'inquiéter? C'est notre débat.
Ça fait 50 ans que le déficit français est présent chaque année.
Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes.
Nous n'avons pas voté un budget en équilibre depuis Georges Pompidou, président de la République. Bon, notre dette publique est à 3200 milliards d'euros. Elle représente 110% du PIB, ce qui est sans précédent.
À ce stade, les services de Bercy prévoient potentiellement un déficit à 5,6% du PIB pour 2023, 5,7% en 2024, 5,9% pour 2025.
Jean-François Husson, sénateur Les Républicains, rapporteur général du budget.
C'est un déficit que nous n'avons jamais connu sous la Ve République à ce niveau. hors période de crise. C'est une gestion budgétaire calamiteuse du gouvernement.
Arrêtons le bal des hypocrites, de ceux qui vous disent aujourd'hui vous avez mal géré et qui hier me demandaient de dépenser plus.
Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
Maintenant que nous sommes sortis de la période de crise, il faut rétablir les comptes publics. On va le faire sereinement, fermement et je le dis très clairement, sans rigueur. Avec simplement de la fermeté et de la constance.
Bruno Le Maire, c'est un peu Robin des Bois à l'envers, c'est prendre de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.
On est dans un contexte où il y a plus de 170 milliards d'euros d'aides aux entreprises chaque année qui sont données sans contrepartie ni condition. C'est quasiment un tiers du budget de l'État. Et c'est le seul sujet sur lequel Bruno Le Maire ne veut pas faire d'économie. C'est quand même assez étonnant.
La conjoncture internationale, elle est plus difficile.
Thomas Cazenave, ministre des Comptes publics.
En raison du ralentissement chinois, en raison de la guerre en Ukraine, du ralentissement de nos partenaires européens. Regardez, l'Allemagne a revu considérablement sa prévision de croissance. Et donc, on a dû revoir notre croissance. Il y a un choc externe, d'une certaine manière. Et c'est une forme de nouvelle donne pour nos finances publiques.
C'est pas des économies qu'il faut faire, c'est des dépenses de plus.
Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise.
Des dépenses de plus pour l'hôpital, des dépenses de plus pour l'école, pour la défense, etc., etc., etc. Donc, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Nous avons 3 000 milliards de dettes. Nous ne les rembourserons jamais.
Le déficit public est attendu au-dessus de 5%, potentiellement à 5,6% du PIB en 2023. Patrick Artus, j'ai besoin de mon économiste pour me faire la définition. Ce PIB, qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-nous. Et puis 5,6% sur les dernières années, est-ce que ça représente une chute ou plutôt une envolée?
Alors, le déficit public, c'est la partie des dépenses publiques qui n'est pas financée par des recettes fiscales ou d'autres recettes de l'État. Et ce n'est pas que l'État. Donc, le déficit public couvre l'État, les collectivités locales et la santé, hein, et la santé de ville, l'hôpital, etc. Donc il faut rapporter ce déficit public et doit être rapporté au niveau des dépenses publiques, hein. Les dépenses publiques sont un peu inférieures à 59% du PIB, et donc ça veut dire qu'on ne finance que 90% des dépenses publiques par des recettes fiscales ou autres et 10% par l'emprunt.
La dette sur les marchés.
Voilà, la dette sur les marchés.
Et on a déjà été beaucoup bien au-dessus de 5,6% du PIB de déficit.
Alors c'est vrai qu'on a été au-dessus dans des périodes vraiment de récession. Donc, voilà. Dans la crise des subprimes, hein, la grande crise financière de 2008-2009, pendant la Covid, pendant la Covid, on a un déficit public qui n'est pas monstrueux, d'ailleurs, qui est autour de 9% du PIB, donc, alors que le produit intérieur brut avait baissé de 20%. Hein, donc effectivement, dans une année normale, c'est un déficit assez élevé. Alors, faut-il pour autant crier à la faillite, etc.? Il n'y a aucun signe aujourd'hui que l'équilibre de la dette publique, c'est un équilibre entre la dette offerte, donc c'est les émissions de l'État, hein, qui cherchent à se financer, et la dette demandée, c'est la dette publique de la France, dans l'espèce, que veulent détenir les investisseurs internationaux en dette publique. Le poids des investisseurs internationaux est très élevé dans la dette française.
Et donc c'est quand les investisseurs se détournent qu'on est en faillite,
Alors pas forcément en faillite, mais qu'on observe une hausse forte des taux d'intérêt qui a un effet cumulatif et qui met en difficulté. Donc nous n'observons rien de tel. L'écart de taux d'intérêt entre la France et l'Allemagne était très bas, et c'est 44 points de base, hein, c'est 0,44%. Et on observe aussi que les émissions, hein, les adjudications de l'État se passent extrêmement bien. Il y a beaucoup de demandes pour les émissions du gouvernement français.
Anne-Sophie Le Chevalier, c'est Éric Ciotti chez Les Républicains, qui dit que la France suit le chemin de la Grèce. Est-ce que vous êtes d'accord sur la photo de Patrick Artus qui dit, bon, bah, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas le feu au lac. Enfin, il n'y a pas le feu au lac chez les investisseurs.
Oui, tout à fait d'accord avec Patrick. Non, on ne suit pas le chemin de la Grèce. Les situations ne sont pas comparables. En revanche, on peut rajouter deux choses. Peut-être que si vous vous souvenez, on a longtemps eu cette règle de 3%, qu'il ne fallait pas excéder les 3% de déficit. Règle qui a changé récemment, mais qui...
Qui
a été assouplie. Si on regarde peut-être depuis 94, j'ai un peu, donc 30 ans, j'ai compté, on a entre 20 et 22 années où on est au-delà de 3%. Donc on voit bien, ça permet de relativiser. Et effectivement, comme Patrick le disait, il y a eu les périodes de crise aussi qui où ça a été particulier, le déficit a été plus important. Mmh. En fait, ce qui se passe là, on est dans un moment un peu particulier parce que on a à la une conjonction de il y a un emballement sur le sujet. Donc vous avez parlé de la prévision de déficit, du déficit pour 2023, pardon, qui serait bien supérieur à ce qui était attendu. Et en fait, c'est plus ça qui étonne, c'est le fait que on prévoyait 4,9 et on sera sans doute à 5,6.
C'est le
donc
dérapage.
L'écart est important. Alors, pourquoi ce dérapage ?
Alors oui, c'est le procès. Il y a tout un procès en incompétence qui a démarré là cette semaine.
Alors le dérapage, il s'explique assez clairement sur le ralentissement économique qui s'est produit l'an dernier et qui a entraîné des moindres recettes par rapport aux prévisions. Je vais vous citer trois chiffres 4,4 milliards de moins sur l'impôt sur les sociétés, 1,4 milliard de moins sur la TVA et 1,4 milliard de moins sur l'impôt sur le revenu. Donc ce ralentissement économique, on l'a vu. Hein, il y a eu la consommation des ménages qui n'a pas progressé, la production industrielle qui a baissé et l'investissement aussi. Et c'est pas complètement par hasard, on en a parlé. L'Allemagne a été en récession à la même période. Il y a eu le ralentissement chinois et puis on a évidemment eu les effets du relèvement des taux à une vitesse extraordinaire par la Banque Centrale Européenne qui a renchéri le coût de l'emprunt.
Mais est-ce que ça... Alors je vous écoute Anne-Sophie, Patrick Artus, est-ce que ça veut dire que on voit qu'il y a moins de recettes puisqu'il y a eu moins de... C'est pas plus de dépenses. C'est moins de recettes parce que l'activité n'a pas été là. Est-ce qu'on pourrait se dire, du coup, puisque les investisseurs ne se détournent pas, tout ça s'explique, quand la croissance va repartir, ça va aller mieux ? Ou bien est-ce que, comme nos voisins européens font mieux, on n'est pas quand même un peu acculé à faire mieux, nous aussi, sur le déficit ?
Bon, deux choses. Alors, il y a un débat très central et qui a été relancé par une étude de la Banque de France publiée cette semaine, qui est le débat sur la productivité. Donc le problème, c'est que la productivité en France recule depuis 2019. Et moins de productivité, ça veut dire moins de production et moins de recettes fiscales. Si nous avions gardé une croissance de la productivité de 1% par an, ce qui était à peu près le rythme antérieur, on aurait aujourd'hui 8 ou 9% de productivité, donc de produit intérieur brut en plus, et on aurait 4 points de PIB, de déficit public en moins. Donc la première question, c'est c'est central. C'est-à-dire l'action doit dépendre d'une réflexion sur le fait que est-ce que les gains de productivité vont redémarrer parce que on normalise le marché du travail, parce qu'on a moins de difficultés d'embauche, parce qu'on a absorbé les apprentis dans le marché du travail, ou est-ce que les gains de productivité restent faibles parce qu'on manque de dépenses technologiques, parce que la population vieillit, parce qu'on ne fait pas assez de recherche-développement, etc. Alors, il y a deux camps dans les économistes qui n'aident pas, quoi, je veux dire.
Non, vous êtes souvent divers. Hein,
c'est très important. Et le problème, c'est que la gestion du futur va dépendre du jugement sur la productivité. Et puis, deuxième remarque, il y a deux solutions quand on est face à un déficit public plus important. La première solution, c'est de ne rien faire de brutal et d'essayer d'améliorer progressivement les finances publiques par des politiques de soutien de l'activité, mais plutôt du soutien de l'offre, peut-être qu'on va parler. Et puis la seconde solution, c'est de fermer les dépenses publiques ou d'augmenter la pression fiscale et de gérer ça par la récession. Juste un chiffre, si on a 1% de croissance avec le déficit public qu'on a, si on veut faire disparaître le déficit public excédentaire, donc ramener le déficit public en 2027 au niveau qui était antérieurement prévu.
En dessous de 3%, 3% max.
2,7%, on tombe à zéro de croissance. On perd le point de croissance, donc on aurait une économie complètement stagnante jusqu'en 2027.
Vous voulez dire que si on met trop le pied sur le frein, en fait, on n'aura pas de croissance. C'est ça que vous dites.
Et on perdra la moitié de ce qu'on croyait récupérer a priori par la baisse des dépenses.
Anne-Sophie.
D'où la difficulté immédiate aujourd'hui, parce que la difficulté, elle est dès 2024 pour le gouvernement. Il s'était engagé à ramener ce déficit à 4,4% du PIB. Or, c'est pas la même chose de passer de 4,9 à 4,4 que de passer de 5,5-5,6 à 4,4. Donc en fait, la question c'est, est-ce qu'on garde l'objectif de 4,4? Et ça peut être aussi une tentation de changer la cible pour 2024. Donc ça, on le saura la semaine prochaine. Et comment on fait, d'autant qu'on a un autre problème, et c'est pour ça que les oppositions commencent à parler d'insincérité, c'est que la prévision de croissance pour cette année a été surestimée. Donc, je vous rappelle, dans le projet de loi de finances, 1,4%, à l'époque où le consensus des économistes parlait de 0,8%. Donc, c'est un écart assez important.
C'est grave de parler d'insincérité hein, quand on parle de finances publiques.
En langage des finances publiques, c'est peut-être le plus, c'est une obligation constitutionnelle hein, depuis 2008 d'avoir des comptes sincères. Donc, quand même, le gouvernement a ramené sa prévision à 1%. C'est là où il a annoncé ses décrets en passant 10 milliards d'économies par décret. Mais on voit bien que même le 1%, il va peut-être pas suffire puisqu'on est plutôt à 0,5, 0,8 selon les différentes prévisions. Donc ce sujet n'est pas fini du tout pour cette année.
Incompétence, insincérité, vous réagissez comment à ces mots qui arrivent dans le débat public cette semaine, Patrick Artus?
Mais à nouveau, je répète que si la Banque de France a raison sur son diagnostic que la productivité va bondir et va redevenir supérieure à 1%, il n'y a pas insincérité pour la suite. 2024, la croissance a été surestimée. À partir de 2025, on aura effectivement une croissance de 1,5%.
Bon, le gouvernement, il a surtout pêché par optimisme, mais il avait eu raison l'année d'avant, donc il s'est dit peut-être je vais refaire la même chose. Et puis, en fait, il n'y a pas que tous les indicateurs dont on vient de parler, c'est tous les indicateurs qui ont été poussés à l'extrême, et donc et pour un peu repeindre le tableau en rose, parce que sa stratégie, c'était qu'il y ait de la croissance qui permette de baisser les déficits.
Alors, il nous reste juste une minute, et parce que je pense que le débat reviendra. Mais c'est sur ce qui commence à émerger. Hein. Il faudrait des hausses d'impôts, il faudrait voir une contribution exceptionnelle des grandes entreprises en cas de super profit, de super dividende, ça c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Il faudrait réfléchir à la taxation des revenus du capital, ça c'est le MoDem avec Jean-Paul Mattei. Est-ce que...
Moi, je pense qu'il ne faut pas réduire les dépenses publiques ou monter les impôts maintenant. Il faut déjà attendre le verdict du futur sur la productivité. Et on peut amorcer aujourd'hui un mouvement de hausse des dépenses d'avenir et de modération des dépenses sociales. Mais serrer les freins aujourd'hui, c'est probablement inutile. Et j'ai juste un argument, c'est que les Allemands n'émettent plus aucune dette publique. Le déficit public de l'Allemagne tombe à zéro. Et donc, c'est naturel que les investisseurs achètent de la dette française puisqu'ils ne peuvent plus acheter de la dette allemande.
Anne-Sophie Le Chevalier, le mot de la fin.
Alors,
on y reviendra.
Sans toucher forcément à l'État-providence et aux dépenses sociales, il y a de la marge de manœuvre, notamment dans les aides aux entreprises. Il y a des économies qui peuvent être faites sans casser toute la croissance. On parle beaucoup des 20 milliards qui sont dépensés pour l'apprentissage. Et peut-être qu'il n'y a pas besoin de 20 milliards et ça n'entraînera pas une récession. Et puis, il faudrait changer de méthode. Enfin, il y a plein de choses à raconter et peut-être quand même se poser la question fiscale, mais pas forcément pour redresser les comptes. C'est une question de justice fiscale, de justice sociale. Est-ce que c'est normal que les milliardaires dans ce pays ne paient pas autant d'impôts que les autres personnes?
Anne-Sophie Le Chevalier et Patrick Artus, ils ont fait le débat jusqu'au bout du compteur de ce samedi 23 mars.
La déindustrialisation
L'écho en VO, c'est le moment où l'on regarde comment ailleurs l'économie tourne autour d'un mot. Et ce matin, on part en Allemagne.
Mehr Standortpatriotismus. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet ein grüner Wirtschaftsminister sowas fordert? Geht es doch vermeintlich nur um Fußball? Robert Habeck kritisiert das Ende der Zusammenarbeit der deutschen Nationalmannschaft mit Ausrüster Adidas.
Standortpatriotismus, le ministre de l'économie allemand Robert Habeck aurait préféré un peu plus de patriotisme local. Et ben oui, il est consterné parce qu'à partir de 2027, le maillot de foot des joueurs de la Mannschaft arborera un swoosh, la virgule de Nike et plus les trois bandes d'Adidas. Bonjour David Philippot.
Bonjour à tous.
Vous êtes correspondant de France Inter en Allemagne. La déflagration a été forte jeudi quand le pays a donc appris que la Fédération Nationale de Foot rompait son partenariat avec Adidas, un compagnonnage vieux de 70 ans, pour toper avec le géant américain. David, qu'a donc mis Nike sur la table pour remporter le marché ?
Un gros sac de sport rempli de dollars, l'équivalent de 100 millions d'euros par an, selon la presse, c'est-à-dire le double de ce que donne aujourd'hui Adidas aux Allemands ou Nike pour l'équipe de France. La Fédération allemande de foot, la DFB, refuse de confirmer le montant des enchères. Elle a simplement déclaré que Nike avait fait de loin la meilleure offre économique. Apparemment, le patron d'Adidas, firme dont le bilan a légèrement été dans le rouge l'an dernier, n'a pas souhaité poursuivre ce partenariat à tout prix, mais Bjørn Gulden, un Norvégien, a peut-être sous-estimé la valeur du symbole. Les supporters disent que leur cœur saigne, rappellent que les 6 Coupes du Monde et les 11 titres européens, hommes et femmes confondus, ont tous été gagnés avec les 3 bandes sur les épaules. Ils se lamentent sur la vente des bijoux de famille, une confirmation que le ballon rond ne tourne plus qu'autour du pognon. Pour les experts du secteur, dans la lutte mondiale que se livrent les deux géants, ce deal ressemble fort à une défaite à domicile.
Et le parallèle est même fait, David, entre l'Allemagne qui perd au foot et son économie en berne.
Oui, la plupart des commentateurs broient du noir rappellent que le pays n'a pas gagné une compétition depuis 10 ans, une éternité ici, alors que les prévisions de la Bundesbank publiées jeudi rappellent que la sortie du marasme n'est pas pour demain, qu'il y a encore peu d'indices d'une reprise conjoncturelle, même pour le deuxième trimestre. Pour les Allemands, c'est un peu leur monde qui s'effondre, si vous voulez, une nation qui perd ses repères, en train même de se faire doubler par les concurrents asiatiques sur le marché automobile. Le quotidien Bild, qui a fait la une sur le transfert chez Nike, ose le parallèle entre le débat actuel sur la semaine de 4 jours et le manque d'agressivité supposée des joueurs de l'équipe, en concluant « celui qui veut gagner doit faire plus d'efforts que les autres », je cite toujours, mais on ne sent guère cela actuellement dans l'ancien pays du miracle économique et du champion du monde de l'exportation. Ce qui est vraiment surprenant, en fait, c'est le moment choisi par la Fédé allemande pour faire cette annonce, à moins de 3 mois de l'euro que l'Allemagne va organiser, comme vous le savez, Alexandra, une compétition que le pays souhaite écologique et vertueuse, comme un contre-pied de l'épreuve organisée au Qatar.
Et une compétition pour laquelle la France et l'Allemagne, qui s'affrontent ce soir en amical à Lyon, sont en train de se préparer. David Philippot avec nous à Berlin. – 9h35 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag'Éco, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire. Question sur les remèdes à la colère des agriculteurs, le rejet du CETA au Sénat, et puis donc cette notion de souveraineté alimentaire. Tout le monde apparemment ne la définit pas de la même manière. Quelles sont nos dépendances? À quelles conditions pouvons-nous éviter certaines importations? Jusqu'où pourrions-nous devenir autonomes? Ce matin, nous partons en Haute-Loire, retrouver notre reporter Mathilde Dehimy dans un village de 300 habitants, dans ce GAEC, groupement agricole d'exploitation en commun. Séverine et Yannick élèvent 300 brebis et quelques dizaines de vaches.
Bonjour, je m'appelle Séverine Philippe, j'habite à Espalem et je suis en GAEC avec mon mari depuis 21 ans. C'est un bâtiment, donc ce qu'on appelle une stabulation. On a à peu près 60 vaches laitières. On a une zone de logette paillée et puis 2 aires de raclage. Et c'est un bâtiment en bois. Il y a beaucoup moins de bruit que dans un bâtiment métallique. Et les vaches sont bien, enfin je trouve. Elles sont assez cool.
Qu'est-ce qu'elles mangent là ?
Alors là, c'est une ration mélangée. C'est herbe et maïs, donc foin, luzerne, enrubanage, de l'ensilage d'herbe, de l'ensilage de maïs. Donc tout ça produit sur l'exploitation. Des céréales et du tourteau, donc soja, colza. Le problème du soja, c'est qu'il vient de l'étranger, principalement du Brésil. Donc il a un certain coût. Et après, le colza est en train de supplanter. Et nous aussi, on préfère essayer de prendre de l'aliment au plus près, en fait. Enfin, il faut qu'on, nous, on devienne autonome, en fait.
Il faudra encore attendre pour être autonome, poursuit Séverine Philippe. On ne peut pas encore se passer, dit-elle, de soja, d'intrants, soit les engrais, les pesticides, ni de gazole venu de l'étranger. Des dépendances qu'on peut réduire, estime son mari Yannick, président de la commission économique de la FNSEA, principal syndicat agricole. Lui s'inquiète surtout des importations de nourriture.
L'alimentation est un bien essentiel et on l'a peut-être oublié ces 30 dernières années en pensant que on avait la capacité de produire suffisamment sur cette planète, que si on ne produisait pas en France, on achèterait ailleurs. Et on voit bien qu'on peut être assez dépendant. Son intérêt alimentaire, c'est de dire, on regarde en termes de volume ce que consomment les Français et on regarde de l'autre côté ce que produisent les producteurs français. Voilà, on fait une comparaison et on regarde production par production où on en est. On va regarder aussi les besoins qu'on a en intrants pour produire, hein, c'est ce qui est normal. Mais l'agriculture française, elle est assez autonome. Elle est en capacité de produire quand même un certain nombre de biens pour l'ensemble de ses consommateurs. Ce qui nous importe beaucoup aujourd'hui, c'est de voir les autres continents qui montent en charge en termes de production agricole à des prix très bas et qui viennent faire de l'Europe une cible pour vendre leurs produits, avec des conditions de production qui sont complètement différentes des nôtres. Et c'est là que nous, producteurs français, on dit « attention ». Si on n'y prend pas garde, on va mettre en place le même système que l'on a mis dans l'acier, dans le textile, où tout doucement, on a disparu en France. Aujourd'hui, on voudrait qu'une fois par an, avant le salon d'agriculture, on ait une rencontre avec le gouvernement en disant, vous voyez, il manque aujourd'hui un poulet sur deux qui est importé. Comment on fait pour développer la filière volaille, avec la mise en place d'ateliers, avec des simplifications pour avoir des autorisations, des solutions pour les abattoirs. Voilà, donc c'est tout cela qui doit être débattu et qui nous permettent de redonner un peu une orientation à chaque fois. Et ne pas être attentif, ce serait percevoir qu'au bout de 10 ans, ben effectivement, on importe un poulet sur deux, un agneau sur deux, un fruit sur deux, un légume sur deux. Et c'est ça qui est vraiment posé comme question et au pouvoir public, en disant redonner de la lisibilité, redonner des perspectives. Et c'est cela que les agriculteurs attendent.
Le projet de loi d'orientation agricole doit inscrire la souveraineté alimentaire comme intérêt fondamental de la nation, au même titre que la sécurité ou la défense nationale, dit Gabriel Attal, le chef du gouvernement. Mais la France a-t-elle les moyens de cette ambition ? Notre pays exporte vin, céréales et produits laitiers, mais doit aussi importer de plus en plus de volailles et 3,8 milliards d'euros de fruits et légumes, et pas seulement des produits exotiques.
Bonjour.
Harold Levrel est professeur d'économie écologique à l'école AgroParisTech à Saclay, près de Paris.
Pour les fruits, c'est tout à fait flagrant. Hein. On peut produire dans notre pays, eh bien on les importe. Ça, ça fait partie des vrais enjeux de souveraineté alimentaire. Là, on a un déficit qui est structurel et qui est assez facilement résorbable, mais encore faut-il qu'il y ait les incitations financières à ce type de changement. La PAC, elle est très largement indexée sur les surfaces en fait, dont vous disposez en tant que fermier. Les productions de fruits en fait, ne couvrent pas des surfaces importantes, donc vous n'allez pas toucher beaucoup de subventions, alors que les céréales couvrent des surfaces importantes, et eux vont toucher mécaniquement des subventions importantes. Deuxièmement, on exporte beaucoup, notamment de céréales, qui sont aussi l'objet d'importations importantes. Hein. On a le cas notamment du blé dur, hein, qui est un exemple en soi assez surprenant et qui peut parfois choquer, puisqu'on est sur presque 150% de nos besoins qui sont couverts par la production française, et pourtant on importe 75% de ce que l'on consomme. Donc là, seule une intervention de politique publique peut changer la donne, c'est-à-dire en fixant des règles, par exemple, qu'on n'exporte qu'une fois la consommation du pays couverte. Mais vous voyez bien que là, on passe dans un exercice qui devient dirigiste et qui pose des problèmes, ne serait-ce que parce qu'il y a des accords commerciaux entre pays à l'échelle mondiale. Parmi les produits aussi qu'on produit et qui couvrent nos besoins, il y a les poulets. Hein. On produit 81% de nos besoins, mais en fait, on en exporte beaucoup. Et résultat, on importe 42% en fait des poulets que nous consommons en France. Alors c'est vrai qu'entre choisir des poulets de faible qualité étrangers et des poulets français qui quand même dans l'ensemble sont clairement de meilleure qualité, il y a un sujet qui se pose du côté du consommateur, quoi.
Pour Harold Levrel, il faut revoir tout le système, et notamment l'attribution des subventions, en prenant en compte le coût du traitement des eaux à cause des pesticides, ce lié aussi au cancer des agriculteurs. Une remise à plat, à condition que tous les acteurs s'entendent déjà sur une même définition de souveraineté alimentaire.
Bonjour, je m'appelle Aurélie Catalo, je suis directrice agriculture France à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et la souveraineté alimentaire, dans sa définition qui nous est donnée par les Nations Unies, ça fait référence à l'idée du droit des peuples à choisir le système agricole et alimentaire qu'ils souhaitent que leur pays ait. Donc c'est avant tout une question du niveau de dépendance, du niveau de qualité, du niveau de proximité qu'on souhaite avoir sur ces approvisionnements alimentaires. Par contre, cette définition-là, c'est pas forcément celle qui est utilisée par la plupart des acteurs français, en tout cas, quand ils utilisent le terme de souveraineté alimentaire. Le gouvernement français, quand lui, il utilise la notion de souveraineté alimentaire, il fait surtout référence à la notion d'autonomie alimentaire, et donc de la capacité, en l'occurrence, de la France à se nourrir. Et là où il peut y avoir des petites divergences, même au sein du gouvernement, c'est est-ce qu'on regarde uniquement les produits alimentaires finis, donc par exemple le steak, est-ce qu'il vient d'une vache qui a été abattue en France, ou est-ce qu'on regarde aussi les intrants qui servent à la fabrication des produits alimentaires, et donc dans l'exemple de mon steak, ce serait l'alimentation qu'on donne à manger aux animaux par exemple, mais aussi la recherche génétique qui nous permet d'avoir telle race d'animal, ou encore les antibiotiques avec lesquels sont soignés les animaux. La question, c'est est-ce que vraiment on veut être indépendant sur la totalité des intrants et des matières premières qui servent à fabriquer l'alimentation des Français? Et si on voulait être totalement indépendant, eh bien ça voudrait dire qu'on devrait accepter d'avoir beaucoup moins de soja et donc de réduire nos cheptels. Et ça, il y a une bonne partie des acteurs au sein du gouvernement, la profession agricole et plus généralement au sein du système agroalimentaire qui ne sont pas d'accord avec cette idée. Donc, quand on se demande est-ce qu'on peut ou pas être parfaitement souverain, en réalité, la question sous-jacente, c'est sur quoi veut-on réellement être souverain ? Et en général, il n'y a pas unanimité entre les parties prenantes sur le périmètre de ce sur quoi on souhaite vraiment être souverain.
Agriculture, alimentation, quelle souveraineté voulons-nous ? C'était le reportage de Mathilde Dehigny.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et la ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire est notre invitée. Bonjour Agnès Pannier-Runacher.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
L'objectif de souveraineté agricole et alimentaire sera inscrit dans le projet de loi présenté vendredi prochain au Conseil des ministres. Vous avez entendu avec nous le reportage. Il y a débat sur la définition. Alors dans votre esprit, Agnès Pannier-Runacher, la souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire et ça va jusqu'où ?
Alors la souveraineté alimentaire, c'est la capacité à nourrir sa population. Et le test de souveraineté alimentaire qu'on a eu, c'est quand on a traversé la crise du Covid et qu'on a dû, sur nos mérites propres, s'assurer qu'on était capable d'organiser l'alimentation de nos populations et de nos élevages, alors qu'une partie des flux d'approvisionnement était bloquée dans le contexte du confinement planétaire.
Est-ce que ça veut dire qu'on produit 100% de ce qu'on mange ?
Pas du tout. Mais ça veut dire qu'on est capable de produire suffisamment pour alimenter nos populations. Donc c'est, je dirais, en termes de calories, parce qu'on peut faire des substitutions, nous ne serons jamais, par exemple, autoportants sur des productions tropicales, même si nous avons des productions dans l'outre-mer.
La banane, oui, mais on ne fera
mais
jamais d'ananas
et d'avocat. On doit être capable d'apporter les légumes et les fruits si des flux devait starir dans certaines directions. Et c'est ça l'objectif que nous devons avoir. Et ce que nous voyons, ce que nous avons vu pendant la crise de Covid, c'est qu'on a une souveraineté alimentaire et on a une souveraineté agricole. Mais on a des points de faiblesse. Ces points de fragilité, c'est... Alors d'abord, c'est les engrais. Ensuite, et on l'a vu aussi avec l'attaque de la Russie, l'agression russe en Ukraine, parce que les engrais sont beaucoup importés de Russie, de Biélorussie, de cette partie du monde. On a une fragilité sur l'alimentation de nos élevages. Les protéines végétales que l'on donne à nos élevages, c'est beaucoup de soja. Et donc, on doit redévelopper des protéines pour ces élevages. Et effectivement, fruits et légumes, on a également mentionné le blé dur. Par rapport à ça, nous agissons avec des plans de souveraineté qui précisément adressent ces différents secteurs. Plan de souveraineté pour l'élevage, plan de souveraineté pour les fruits et légumes, plan de souveraineté pour le blé dur, et je suis en charge d'élaborer un plan de souveraineté pour les engrais dans les semaines qui viennent.
Alors justement, est-ce que pour être souverain, il faut produire plus, quitte à alléger certaines contraintes écologiques? C'est d'ailleurs ce que vient de faire la Bruxelles avec la nouvelle politique agricole commune.
Alors pas du tout. Pas du tout, parce que lorsqu'on simplifie des procédures ou lorsqu'on met du pragmatisme, je vais vous donner un exemple. Dans l'application stricte de la PAC, le Pas-de-Calais, une partie des agriculteurs qui ont les pieds dans l'eau aujourd'hui perdraient leurs aides PAC parce qu'ils n'ont pas fait les assolements d'hiver. Et ils n'ont pas fait les assolements d'hiver parce qu'ils sont les pieds dans l'eau et qu'ils ne peuvent pas planter. Ça s'appelle des éco-régimes. Lorsqu'on a une application stricte des règles qui ne tiennent pas compte du fait que nous sommes sur du vivant, qu'il y a un impact climatique et qu'en fait, pour obtenir les mêmes objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et de protection de la biodiversité, il y a des chemins différents. Il faut tenir compte du moment où on peut planter, du moment où on peut récolter, du moment où on peut entretenir les haies, c'est un autre exemple. Alors, on est à côté de la plaque. Nous, ce que nous voulons, c'est ne pas perdre l'objectif de protection de la biodiversité et de lutte contre le dérèglement climatique pour une raison simple. Ce sont les agriculteurs qui en sont la première victime. Mais la plupart des, une partie non négligeable des problèmes, je pense aux Pyrénées-Orientales par exemple en viticulture, c'est le dérèglement climatique, c'est la sécheresse. Dans le Pas-de-Calais, c'est les inondations. Donc arrêtons d'opposer agriculture et écologie, parce que la solution, elle passe justement par la défense ou par un chemin de d'amélioration de la biodiversité et de lutte contre le dérèglement climatique.
Mais la difficulté, vous le savez bien, Agnès Pannier-Runacher, c'est la transition. Et là, il y a des agriculteurs qui vous disent, je pense à ceux qui font des cerises, des pommes, des noisettes, ils vous disent, mais on est dans une impasse, même les betteraviers, hein, avec la jaunisse. Il y a des situations où les interdictions nous empêchent de soigner nos cultures. Il y a des cultures qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas soumises aux mêmes interdictions que nous. Ça va être quoi votre nouvelle feuille de route, la nouvelle philosophie? La feuille éco-phyto, est-ce que on va réautoriser des substances?
Alors, on va être très clair. Dans ce que vous mentionnez, on parle de molécules qui sont interdites en Europe, auxquelles les agriculteurs nous disent « nous n'y avons pas accès ». Et nous avons le sentiment que nos voisins européens y ont accès. Et là, il y a de la déloyauté, une concurrence déloyale. Et ça, nous allons le prendre point à point, parce qu'il faut regarder dans le détail de quoi il s'agit. Ça peut être tout simplement un produit pour lequel le producteur du produit n'a pas demandé l'autorisation de mise sur le marché français. Donc c'est pas un problème d'interdiction. C'est un problème d'autorisation de mise sur le marché qui n'a pas été étendu à tel ou tel usage. Vous avez une très grande, je donne cet exemple-là, il peut en avoir d'autres, une très grande diversité de situations. Moi, ce que je veux faire sur ça, ce que j'ai lancé, c'est un comité qui réunit l'ensemble des parties prenantes où on va prendre molécule par molécule, usage par usage, pour voir où le bas blesse. Est-ce que c'est les autres pays qui trichent? Est-ce que c'est nous qui n'utilisons pas l'ensemble des instruments qui sont à notre disposition? Est-ce que nous n'allons pas assez vite pour mettre en place des alternatives? Je vous donne un exemple. Vous avez des molécules de remplacement pour remplacer certains phytosanitaires sur lesquels on a des convictions qu'ils peuvent être cancérigènes et toxiques pour la reproduction, etc. C'est pas rien quand même. Et nous n'avons pas encore les homologations pour les mettre sur les marchés. Si vous n'avez pas la solution pour pouvoir remplacer ce qui ne fonctionne pas, ce qui est interdit, ce n'est pas possible. On met les agriculteurs dans les impasses. Donc on va les sortir de ces impasses. Au cas par cas, la semaine prochaine, on sera sur le poireau et le chou. Vous voyez, c'est très concret.
Mais l'agriculture, c'est très concret.
C'est hyper concret. Et il faut apporter ces solutions. Et il faut admettre que on a des chemins techniques, des itinéraires techniques à construire, et qu'il y aura des dérogations, toujours dans le cadre de la loi, on ne sort pas de la loi. Il y aura des dérogations, il y aura des extensions d'autorisation de mise sur le marché de certains produits, il y aura des reconnaissances mutuelles, et puis il y aura aussi des questionnements qu'on adressera à la Commission européenne quand d'autres pays utilisent de manière beaucoup trop large des dérogations sur des produits interdits.
Toujours dans le projet de loi qui sera présenté la semaine prochaine, l'agriculture sera déclarée d'intérêt général majeur. Question très directe, est-ce que ça permet de dire l'agriculture c'est la priorité, donc les retenues d'eau, les mégabassines, ça sera la priorité face aux oppositions, ça y est, on pourra faire plus vite.
Alors d'abord, le terme mégabassine est en soi idéologique, ça s'appelle des stockages d'eau. Ça fait des années que ça existe, depuis que le monde est monde, nous stockons de l'eau et les hommes se rapprochent des endroits où il y a de la réserve en eau, ça peut être des rivières, ça peut être des mers, etc., pour des raisons évidentes de culture et d'alimentation des populations. Donc arrêtons d'employer des termes valises qui permettent d'effrayer le chaland et en particulier l'urbain bobo qui lui n'est pas dans les champs à devoir faire pousser les cultures et alimenter et nourrir la population.
Et sur la
deuxième chose, donc,
compris sur
même,
le vocabulaire. Mais
oui, non, parce que je pense qu'il faut être un peu précis.
Est-ce qu'intérêt général majeur, ça veut dire c'est ça la priorité?
Intérêt général majeur, ça veut dire que on ne peut pas, si vous voulez, utiliser le fait que je prends l'exemple des énergies renouvelables parce qu'on a eu le même débat sur les énergies renouvelables. On considère qu'il ne faut pas prouver que c'est une activité utile pour empêcher la mise en œuvre d'un projet d'énergie renouvelable. voyez, ça s'appelle la raison d'intérêt public majeur, eh bien, c'est la même démarche. Mmh. C'est-à-dire, il ne faut pas prouver qu'on est utile à la nation. L'agriculture est par essence utile à la nation. Ensuite, ça n'enlève rien au fait que les normes environnementales s'appliquent. Mais on ne dit pas c'est une activité dispensable et donc par principe, dès lors que ça a un impact environnemental, c'est très compliqué de le faire. Mmh. Ça rééquilibre le débat et je pense que c'est essentiel parce qu'à un moment, on en vient à un point où, au nom de l'environnement, on a des actions qui sont contraires à l'environnement. Bon.
Agnès Pannier-Runacher, parmi les inquiétudes des agriculteurs, il y a ces importations massives de poulets, d'œufs, de sucre en provenance d'Ukraine. Alors un accord européen vient d'être dévoilé pour plafonner ces importations qui sont sans droit de douane. Le vote a lieu lundi. Est-ce que la France va voter pour ou contre ?
Nous soutenons le fait de mettre plafonnements aux exportations depuis l'Ukraine. Nous sommes solidaires de l'Ukraine. Mais nous ne sommes pas naïfs, ces exportations ont beaucoup augmenté. Nous sommes à un point, elles déstabilisent le marché agricole européen. Par ailleurs, parce qu'il faut être aussi cohérent, nous allons et nous prenons derrière la présidente de la Commission européenne le fait de remettre des droits de douane en l'occurrence, les exportations depuis la Russie. Parce qu'en fait, il faut reprendre le sujet du début. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine ? C'est un très grand producteur de céréales et de manière générale agricole. L'Ukraine avait des débouchés vers la mer Noire. Ces débouchés sont bloqués par la Russie. Du coup, ça pousse tous les stocks vers l'Europe et donc l'Europe se retrouve dans une situation de quasi-surproduction. Surproduction égale prix qui baisse. Nous allons faire en sorte de mettre les exportations russes à un prix beaucoup plus cher, comme ça on les repousse elles-mêmes vers d'autres marchés, de façon à assainir le marché européen. Et nous défendrons nos agriculteurs. À partir du 1er juin, on sera capable de mettre en place des clauses de sauvegarde pour nos exportations, sur les exportations ukrainiennes.
Alors, est-ce que le plafonnement des exportations ukrainiennes, à l'heure actuelle telle que c'est écrit, ça vous convient ou la France,
j'ai l'impression... Ça nous convient sur une partie des produits agricoles. Le président de la République l'a dit. Nous considérons que sur les céréales, ça ne va pas assez loin. D'abord en termes de référence d'année prise en compte, puisqu'on prend les années 2022-2023 où les exportations ont explosé. Donc en fait, on dit qu'il faut que ça soit encore plus élevé qu'en 2022 et 2023. Donc nous, on souhaite comparer aussi l'année 2021 de façon à comparer à quelque chose d'un peu plus raisonnable, régulier. Mmh. Et deuxièmement, on souhaite que l'accord soit étendu aux céréales.
Dernière question, le CETA rejeté au Sénat, Agnès Pannier-Runacher.
C'est inacceptable. Qu'est-ce que ça montre, ce rejet de l'accord du CETA ? Que des gens qui ont porté cet accord sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, puis ont porté cet accord sous le gouvernement de François Hollande, aujourd'hui, par pur opportunisme politique, ferment la porte à un accord qui est bon pour les agriculteurs. L'accord du CETA, c'est 400 millions d'euros dans la poche de nos agriculteurs. C'est la viticulture qui a des débouchés. C'est l'industrie laitière au travers des fromages qui a des débouchés. C'est le bœuf qui a des débouchés. Ça fait 7 ans que cet accord est appliqué et nous avons pu constater qu'il est bon pour la France. Donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que la majorité est aujourd'hui le seul parti de gouvernement et que nous sommes les seuls à effectivement avoir une ambition pour la France au sein de l'Europe.
Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'agriculture et à la souveraineté alimentaire, merci d'avoir été dans On n'arrête pas l'écho.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, Anne-Lise vous a écrit, son fils Hugo est au chômage, il veut utiliser son compte personnel de formation pour devenir cariste. Devra-t-il payer un reste à charge de 100 euros, vous demande Anne-Lise.
Anne-Lise, pour l'instant, rien n'est officiel. Selon nos confrères des Échos qui ont révélé l'affaire, l'Élysée a arbitré en faveur d'un reste à charge de 100 euros sur chaque formation prise sur le CPF, le compte personnel de formation. Bercy voulait plutôt prélever un pourcentage de 10%. La proposition a été retoquée. Elle aurait évidemment rapporté plus d'argent, mais elle aurait pénalisé plus de monde. Là, si on considère qu'une formation CPF coûte en moyenne 1 560 €, le reste à charge à 100 €, ça signifie une ponction de 6,4%, mais c'était qu'une moyenne. Ce forfait, censé entrer en vigueur le 1er mai, devrait quand même générer près de 375 millions d'euros en année pleine, à la fois parce que France Compétences, l'organisme qui gère les fonds de la formation, versera moins d'argent, mais aussi parce que ça devrait dissuader certaines personnes de payer de leur poche pour s'engager dans un cursus.
Et Sandrine, alors je vous ramène au fils d'Anne-Lise, Hugo, est-ce qu'il va devoir payer ses 100 € pour utiliser son CPF ?
A priori non, Hugo lui est au chômage, il est probable que les demandeurs d'emploi fassent partie de ceux qui ne paieront pas le forfait parce qu'il y aura des dérogations. Mais je pense aux stagiaires qui pourraient renoncer à utiliser leur CPF pour des formations courtes, par exemple le certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité, le fameux CACES, c'est une formation qui coûte entre 500 et 1 000 € et ça fait partie de celles qui sont les plus demandées, comme le permis de conduire.
Mais Sandrine, un reste à charge de 100 €, c'est peut-être une façon de limiter les formations moins indispensables, certains diraient de confort.
Écoutez, l'objectif du gouvernement est de faire des économies, pas de trier les bonnes et les mauvaises formations. D'ailleurs, le CACES ou le permis de conduire sont très utiles pour trouver un travail. Sélectionner les formations, ce serait d'ailleurs incohérent avec la libéralisation de la réforme professionnelle de 2018 qui a monétisé le CPF et supprimé tous les intermédiaires pour que chacun puisse prendre son avenir professionnel en main. En tout cas, les syndicats, eux, ne vont pas se priver de rappeler au gouvernement qu'ils sont hostiles à tout reste à charge et que l'argent du CPF, c'est celui des salariés, pas de l'État. Ils ont reçu l'assurance, de l'Élysée notamment, que des concertations allaient bientôt commencer sur le sujet. Le reste à charge est un dossier épineux, il avait déjà été voté dans la loi de finances de 2023, mais le décret n'est jamais sorti. L'affaire n'est peut-être pas complètement terminée.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot.